Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Radio Alliance Plus. Bienvenue pour notre émission. La semaine dernière, vous avez pu entendre Paul Effona, pasteur au centre Martin Luther King à Nîmes, vous donner ses impressions et son analyse de la rencontre des acteurs fédératifs qui a eu lieu à Sète les 25 et 26 janvier dernier. Sur le thème suivant, le protestantisme en mutation, une question de confiance. Pour y faire suite, je vous propose d'écouter aujourd'hui deux interventions qui ont eu lieu pendant ce week-end-là. Tout d'abord, celle de Céline Romer sur le thème de la confiance. Céline Romer est pasteur et professeur de Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie à Montpellier. Je vous invite donc à l'écouter maintenant et puis nous nous retrouverons après un chant du groupe Coram Deo.
On m'a demandé donc de parler théologiquement de cette thématique de la confiance, une confiance qu'on dit volontiers en crise aujourd'hui. Moi, je voudrais simplement commencer par dire qu'on ne peut que comprendre cette méfiance actuelle. Je regardais cette semaine, certainement comme vous, le discours d'investiture de Donald Trump. Et je me disais qu'à lui tout seul, quand même, il avait réussi le formidable exploit de me faire désespérer et de la politique et du religieux, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Et que je le regardais la main sur la Bible, en train de faire un spectacle de la confiance accordée par un peuple à un président sauveur tout-puissant. Et je retiens de cette semaine au moins le courage d'une femme. Ouais, ça fait du bien quand même de se le dire. Une femme évêque de l'église épiscopalienne, Marianne Budd, pour rappeler ce qu'est aujourd'hui le rôle interpellateur d'un disciple du Christ et démasquer les abus de confiance. Elle a fait le travail et j'en suis très heureuse. C'était une manière, voilà, un petit peu d'entrer dans cette thématique. C'était un exemple concret cette semaine qu'on a tous vécu, j'imagine. Voilà, on m'a présenté comme donc théologienne, c'est vrai, néo-testamentaire, c'est vrai aussi. Et du coup, vous comprendrez que lorsqu'il s'agit de confiance, en réalité, pour moi, il s'agit de foi. C'est le même mot, confiance et foi traduisent en réalité un même mot grec, parce que moi, je ne suis pas très forte en latin, je préfère le grec. C'est la langue des auteurs réunis dans notre corpus. Hein, et le mot grec, pour la foi, pour la confiance, c'est le mot pistis, hein, c'est ça que ça a donné. Alors, pardon pour cette petite touche hellénistique, c'est toujours bien de montrer aux instances ecclésiales qu'on travaille quand même, on fait des choses savantes, donc je me permets juste de le rappeler. Et du coup, c'est à ça que je voudrais m'intéresser, un petit peu à cette confiance, la manière dont les auteurs nous en parlent. Je note au passage que c'est vraiment à la suite de Luther et de Calvin, qui sont quand même deux personnages importants pour nous, qui ont tous les deux largement insisté sur la foi comme confiance. Je cite Calvin, « Ce qui sépare la foi de la confiance font comme si quelqu'un s'efforçait d'ôter au soleil sa chaleur ou sa lumière. » C'est du Calvin, c'est beau. Autrement dit, en christianisme, parler de confiance, c'est parler du cœur battant de la compréhension même de l'existence humaine. Alors, toutes ces précautions prises, je me jette à l'eau et je vous propose, puisqu'il s'agit bien d'entamer une discussion, je vous propose trois thèses susceptibles, évidemment, de nourrir notre propos, mais surtout d'être débattues. Je les commenterai très rapidement, je ne dépasserai pas les 10 minutes, c'est promis. La thèse numéro 1, c'est que, en christianisme, en tout cas pour moi, mais j'imagine qu'on va être nombreux à partager cela, la confiance naît de l'événement d'une rencontre qui n'a rien à voir avec le monde ni avec les hommes, dont Dieu seul est l'auteur. C'est ma première thèse. C'est-à-dire que la confiance, ce n'est pas un état, c'est une dynamique. L'événement qui initie dans l'existence une trajectoire entièrement donnée, conduite par et vers Dieu. C'est-à-dire que la compréhension de soi, de l'existence chrétienne, elle fait de la confiance le nom même du lien d'appartenance au Dieu qui s'est révélé dans la singularité absolue de la parole faite chair dans la personne historique de Jésus de Nazareth, reconnu Christ. Dans le Nouveau Testament, de cet événement de la révélation en soi, c'est de cet événement-là que procède la confiance. Il n'y a pas d'autre confiance que celle que Dieu vient lui-même initier en moi. Cette confiance qui nous anime et qui nous envoie est affranchie de toute tutelle humaine. Elle n'a rien à voir avec ce que les hommes peuvent dire ou faire, ni avec ce que le monde peut faire ou défaire. Et puisque je vous ai fait un peu de grec, je vais me permettre de faire un peu d'hébreu, même si j'entre dans un domaine qui m'est moins familier. Mais tout de même, vous avez bien raison d'aller regarder les mots, le vocabulaire et les définitions. Le mot hébreu qu'on traduit habituellement parfois, vous le savez, c'est le mot émouna. Émouna a d'ailleurs la même racine que le mot amen. Et on m'a raconté une petite histoire que je trouve drôlement intéressante pour notre débat. Dans le désert, pardonnez-moi, peut-être j'enfonce des portes ouvertes et vous savez tout ça par cœur, mais je voudrais juste rappeler cette petite histoire. Dans le désert, les caravanes avancent parfois pendant plusieurs jours avant d'atteindre une ville où vendre les produits que les chameaux transportent. Alors on peut voyager de cette manière-là des jours, des semaines, d'oasis en oasis, et le matin, quand toutes les affaires sont chargées sur les chameaux, le chef de la caravane crie pour demander si tout le monde est prêt à repartir. Et si oui, on lui répond en criant « Amen ». Ce qui veut dire « Oui, oui, je suis prêt, on peut y aller, on te fait confiance pour nous guider à travers le désert jusqu'à la prochaine oasis ». Ce qui signifie que le « Amen » qu'on prononce à la fin des prières ou à la fin des prédications, ce n'est pas un point final, c'est vraiment un point de départ. C'est une mise en mouvement. Alors je dirais que le émouna des Hébreux, la pistis des Grecs ou la confiance des chrétiens, c'est profondément une dynamique qui ouvre le chemin à suivre, même dans les déserts arides et même dans les changements. Et vous voyez que la distinction moderne, quand on le prend comme ça, la distinction moderne qu'on fait entre la confiance et l'action, alors il y en a qu'on dit entre la foi et les œuvres, cette distinction-là, elle n'a aucun sens en réalité, parce que la confiance, c'est ce qui colore toute notre manière d'agir. C'est la parole vive qui colore mon langage et donc mon agir. Ça, c'était pour ma première thèse. La deuxième, c'est que en christianisme, on ne peut pas penser la confiance sans penser l'espérance et l'amour. La confiance, l'espérance et l'amour sont les trois forces d'action données par Dieu. La confiance comprise comme la reconnaissance en soi de la vérité événementielle de la révélation de Dieu en Jésus-Christ, elle a beau être au commencement, comme avec mon histoire des chameaux, elle n'existe jamais sans l'espérance et l'amour qui la traversent. Et permettez-moi de citer là Dietrich Bonhoeffer, puisqu'il est à la mode au cinéma, autant qu'il soit à la mode chez nous. Et je lis dans son Éthique, « La foi n'est jamais seule. Elle comporte l'amour et l'espérance aussi certainement que son essence est la présence réelle du Christ. S'il n'y avait pas l'amour et l'espérance, la foi serait fausse et illusoire. Elle serait hypocrite, inventée par l'homme et ne justifierait jamais. Elle serait une répétition machinale de dogmes appris, une foi morte qui ne comporterait pas les œuvres de la repentance et de l'amour. » Fin de citation. Donc vous voyez que cette fameuse triade, confiance, espérance, amour, dont l'apôtre Paul au passage est certainement l'inventeur, exprime les trois dimensions centrales de l'existence chrétienne et ce qui elle-même les suscite et les maintient en vie, dans le monde. Confiance, espérance, amour, c'est notre feuille de route dans le monde. Et si on en croit le livre des actes, et j'en crois le livre des actes, c'est ce que les premiers chrétiens ont très tôt appelé la voie du Seigneur, la voie, V-O-I-E, le chemin. La confiance est donc comprise comme un chemin. De Paul à Luther, de Bonhoeffer à Tillich, en passant par tant d'autres, la confiance c'est un mouvement, c'est une mise en route à la suite du Christ. Donc la confiance c'est une attitude existentielle qui mobilise toute notre personne, sa connaissance, sa pensée, son corps, son intelligence. Ce n'est pas un assentiment théorique à des affirmations théologiques, ce n'est pas un savoir qui aiderait à trouver le bon chemin. La confiance, c'est le chemin lui-même, le chemin de vérité à chercher autant qu'à suivre. Dit autrement, celui ou celle qui cherche à vivre la confiance n'échappe pas à la confusion du monde. Au contraire, il doit s'y confronter à cette confusion, il est pris dans cette confusion. Et cette confiance qu'il vit, ça lui ouvre un chemin possible au milieu de la confusion. Et je pense que c'est en laissant œuvrer en nous la confiance, l'espérance et l'amour que sont mis au jour pour nos contemporains des chemins possibles de coopération et de confiance mutuelle. C'est en nous risquant à cette confiance extérieure à nous mais qui vient à nous que nous pourrons devenir des occasions de confiance pour les autres en dépit de leur méfiance, malgré tous ces changements et en réalité toutes ces inquiétudes qui sont les leurs. Donc c'est en vivant de la confiance de Dieu qu'on peut donner confiance aux autres. Et ma troisième thèse, et je vais être dans les temps, ça va être remarquable, ma troisième et dernière thèse, c'est que en christianisme, la confiance, c'est une force qui libère de la crainte du présent et de l'avenir. C'est une force de libération. Je déduis cette thèse de la lecture que Paul fait d'Abraham dans son épître aux Romains. Abraham, c'est le patriarche par excellence qui raconte à lui tout seul la relation de confiance à laquelle Dieu nous appelle. Je me permets de vous citer, mais je pense que je ne choquerai personne, l'épître aux Romains, chapitre 4, versets 18 et suivants. « Espérant contre toute espérance, Abraham eut confiance pour devenir père de nombreuses nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta descendance. Et il ne faiblissait pas en confiance, tout en considérant son propre corps nécrosé, il était âgé de 100 ans environ, et aussi la nécrose du sein de Sarah. Devant la promesse de Dieu, il ne douta pas par manque de confiance, mais il fut fortifié par la confiance et rendit gloire à Dieu, et il était entièrement plein de ceci, ce que Dieu promet, il a la puissance de le faire aussi. » Dieu a promis à Abraham de devenir père de nombreuses nations. Abraham a confiance en cette promesse donnée. Il l'a reçue, il l'a fait sienne et il y sera fidèle. C'est son espérance. Ça veut dire que la confiance d'Abraham fait de lui la figure même de l'obstination. Lui qui espère contre toute espérance. Sa confiance, c'est une manière d'être et d'agir dans le monde. Tout dans le monde lui rappelle qu'il ne peut évidemment pas faire confiance. Que évidemment il ne sera jamais le père d'une descendance nombreuse. Mais sa confiance à lui, parce qu'elle ne vient pas de lui, parce qu'elle ne vient pas du monde, la confiance qu'il a reçue et qu'il a fait sienne, cette confiance-là ouvre pour lui un chemin possible. Il croit contre toute espérance et c'est ce qui fait de sa confiance une espérance. Je m'explique. La confiance qui nous est donnée n'est pas du monde et rien du monde ne peut venir la fonder ni même l'expliquer. Mais ça veut dire qu'en retour, tout ce qui vient du monde ne peut pas atteindre la confiance qui nous a été donnée. Tous les changements, toutes les inquiétudes, tout ce que le monde peut dire, tout ce que le monde peut produire, ça peut nous titiller, ça peut nous chatouiller, ça peut peut-être nous inquiéter un peu, mais ça ne touche pas à la confiance extraterritoriale, disait mon collègue François Vouga. Ça ne peut pas toucher la confiance que Dieu donne et dont il nourrit nos existences. Ça signifie, et je terminerai par là, que la confiance, c'est une force de conviction qui rend indépendant de ce qui peut être ou ne pas être, qui libère de la crainte du présent ou de l'avenir. C'est un principe de ténacité. Et je crois que dans la Fédération protestante de France, nous sommes des tenaces.
Alors que Dieu t'attend dans le moment présent, vis ce jour-ci, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui, car le passé, Dieu le pardonne, les jours suivants sont hors de portée, les jours suivants sont hors de portée. Vis ce jour-ci, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui, car le passé, Dieu le pardonne, les jours suivants sont hors de portée, les jours suivants sont hors de portée.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus et vous pouvez nous écouter en DAB+, ou bien sur notre site par l'intermédiaire de nos podcasts sur radioallianceplus.fr. Je vous invite maintenant à écouter Vincent Ploquin, directeur adjoint de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Il nous a parlé à partir de la question « Qu'est-ce que l'État attend du protestantisme ?» C'était une des interventions qui ont eu lieu lors de la rencontre des acteurs fédératifs à Sète les 25 et 26 janvier dernier. Nous l'écoutons maintenant et nous nous retrouvons juste après.
Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de commencer d'abord par vous remercier. La Fédération et son président. Merci, cher Christian Krieger, de m'avoir invité. Peut-être, pour répondre à cette interpellation, vous dire le pourquoi de ma présence ce matin parmi vous, dont je suis très heureux encore une fois. Vous le savez ou vous ne le savez pas, dans une république laïque, nous avons quand même un ministère des cultes. Et ce ministère des cultes, c'est le ministère de l'Intérieur depuis déjà longtemps. Et au sein de ce ministère de l'Intérieur, il y a la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Et au sein de cette direction, il y a le Bureau central des cultes. Pourquoi Bureau central des cultes? Puisque à la fin, à post-loi 1905, la Direction centrale des cultes a disparu, puisqu'il n'y avait plus de culte statutaire à gérer, sauf nos amis d'Alsace-Moselle. Et donc, la Direction centrale est devenue un Bureau central par opposition au Bureau décentralisé qui est à Strasbourg et qui continue à gérer nos amis d'Alsace et de Moselle. Donc c'est en cette qualité de représentant de la direction des cultes que je m'adresse à vous aujourd'hui et que je vais essayer de vous dire quelques mots sur cette interpellation. Qu'est-ce que l'État, voilà, vaste sujet, attend du protestantisme aujourd'hui en ce début d'année 2025. Peut-être pour répondre à cette question, je vais partir d'un bref diagnostic du monde dans lequel nous sommes et par rapport auquel on peut penser des attentes vis-à-vis des protestants. Le monde dans ses deux composantes, le monde administration, l'État, et le monde société civile, les deux faisant voilà, cet univers dans lequel vous évoluez, et nous évoluons tous. Mon propos va faire écho avec des choses que vous avez dû entendre hier, donc je ne vais pas être extrêmement novateur, mais et peut-être, vous me pardonnerez, ce diagnostic peut être un peu sombre, mais si on regarde notre société moderne, elle est marquée par une forme d'éclatement, d'éparpillement, d'archipélisation des personnes et des consciences, une forme de tendance au renfermement sur soi accentuée par les réseaux sociaux. Une difficulté aussi, peut-être, à admettre la complexité du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense que notre société fait face à deux mots, mais oui, très profonds, qui est la non-acceptation du mal comme réalité voilà, qui s'impose à nous, et la désespérance. Ce que je veux dire par non-acceptation du mal, c'est cette vie avec l'illusion qu'un jour, le mal pourrait, ou en tout cas devrait, disparaître de notre quotidien. Et je pense que vous, croyants, vous savez, et j'y reviendrai dans une minute, que le mal, évidemment, il est là, vous le combattez dans vos vies personnelles et dans cette vie collective, et pourtant, il faut vivre avec jusqu'à la fin des temps. Et je pense que notre société n'accepte plus ça. Et j'en veux pour preuve ce retour imperceptible à la loi du talion. C'est-à-dire que face à l'abomination du mal, on a envie de répondre par un mal plus grand, plutôt que de se souvenir que l'homme, même défiguré par le mal, garde une infinie dignité. Le refus de ce mystère du mal avec lequel il faut bien vivre et exister. Et deuxième mal, la désespérance. Face à un monde où les repères, ce qui paraissait immuable, où tout devient comme liquide, muable et menaçant, l'homme, avec un grand H, l'homme, la femme, nous tous, est menacé d'une forme d'apathie et Je ne savais pas quel serait le texte retenu ce matin, mais ça fait un écho saisissant. L'homme s'arrête en disant « c'en est trop ». C'en est trop. Mais sans la fin de l'histoire. C'en est trop. Et on ne fait pas société si une collection d'individus juxtaposés disent tous « c'en est trop ». Je me renferme dans mon Aventin. Je me retire de ce monde trop défiguré par le mal, trop compliqué, où on ne peut plus dialoguer, on ne peut plus s'entendre, etc., etc. On ne bâtit pas un monde comme ça. Et face à cette société, on a un État qui, dans notre tradition française, a toujours été un État fort, qui a combattu notamment l'Église catholique avec cette aspiration de pouvoir donner un horizon collectif laïque qui pouvait rassembler tous les hommes et les femmes par-delà leurs appartenances philosophiques et religieuses, avec quelque chose de presque, de quasi messianique, en tout cas religieux. Les hussards noirs de la République, pour eux, l'État, ça voulait dire quelque chose. Nous n'en sommes plus là du tout aujourd'hui. Et je le dis très humblement, l'État ne peut pas tout, si jamais il a pu le faire, en tout cas parfois il a prétendu pouvoir le faire. Et vous avez aujourd'hui un État à qui on demande beaucoup, sans doute beaucoup trop, et qui a de moins en moins les moyens de le faire. Et qui, parfois, semble de plus en plus dépassé par la complexité des enjeux qu'on lui demande de régler. Le vieillissement, le réchauffement climatique, la paupérisation, les fractures de nos sociétés liées au mouvement migratoire, liées au refus d'accepter l'autre, différent, etc., etc. Tout le monde somme l'État de trouver des solutions, et l'État fait ce qu'il peut. Avec un État qui est peuplé de fonctionnaires engagés, désireux de faire le bien, mais qui ont eux-mêmes leurs limites. Et là, je fais le lien avec ce qu'on attend du protestantisme, qui en plus connaît de moins en moins le fait religieux, comprend de moins en moins les croyants, toutes confessions confondues, parce que l'État est le reflet des évolutions sociologiques de notre temps, de même que la France se sécularise, avec une sécularisation paradoxale, puisque à côté de cette sécularisation massive, on a de plus en plus de groupes religieux qui progressent et qui sont de plus en plus confessants. Mais les fonctionnaires, ils sont recrutés dans la population française, et donc ils reflètent cette population française dans laquelle l'inculture, l'incompréhension du fait religieux tend à croître. Sombre tableau, me direz-vous. J'en viens à mon prochain point, les protestants dans tout ça. Je ne vais pas tenter de synthétiser et de résumer la foi protestante, mais peut-être quelques traits qui me paraissent venir justement en réponse à ce tableau que je viens de dresser avec vous. D'abord, vous êtes des hommes et des femmes, et je suis très heureux du slogan que vous avez retenu et de tout ce que j'ai entendu ce matin. Vous êtes des hommes et des femmes d'espérance, par définition. Une espérance qui n'est pas la foi du charbonnier, c'est une espérance qui se nourrit dans la fréquentation de la parole et la recherche exigeante de la vérité et de la fraternité dans la diversité des sensibilités protestantes. Vous n'êtes pas une ONG et vous n'avez pas d'intérêt catégoriel à défendre. Et quand vous y réfléchissez, c'est assez singulier. Et vous avez au cœur de votre identité protestante le dialogue, cette capacité à respecter, comprendre et être curieux de l'autre. Et vous voyez, l'ensemble de ce qui fait à la fois votre foi et votre identité me paraissent être des cadeaux à offrir à notre monde actuellement, à offrir à l'État que je représente très modestement ce matin parmi vous, mais à notre société plus largement. Alors, que faire? Et c'est par ce dernier temps que j'en terminerai mon propos ce matin. D'abord, je pense, et c'est la République laïque qui pourrait vous dire ça, d'abord prier pour la République et prier pour ceux qui la servent. Et c'est très biblique. Au-delà de la boutade, je suis sincère en disant ça, parce que vous croyez aux forces de l'esprit, et donc si vous y croyez vraiment, l'esprit peut souffler même sur des fonctionnaires tout gris, qui ont la dure mission d'essayer de faire en sorte que notre société aille un peu mieux. Et priez pour nos dirigeants, qui sont sans cesse confrontés au choix, sinon du meilleur bien, mais du moins du moindre mal. Deuxième chose, vous faire connaître. Vous faire connaître, puisque je vous dis, les gens, dans leur majorité, ne savent plus ni ce que vous croyez, ni qui vous êtes. Partez du principe, partez de ce principe, vous n'aurez que de bonnes surprises. Et donc, vous faire connaître, ça veut dire avoir l'audace d'aller vous faire connaître. Mais d'aller vous faire connaître dans vos deux aspects, dans votre aspect confessant et dans votre aspect, citoyen de la République française, qui avait une tradition de pensée, d'engagement dans la société, qui parle à tout le monde. Mais rendez toujours compte de votre foi, car la République ne reconnaît aucun culte, mais elle n'en méconnaît aucun, et elle s'enrichit à parler à des croyants. Vous parlez, encore une fois, non pas comme une ONG, vous parlez comme des disciples de ce que vous considérez être le Fils de Dieu, venu dans l'humanité pour sauver les hommes. Et vous ne pouvez pas vous taire sur cette réalité. Et pour nous, aidez-nous, aidez l'État à être l'État et l'homme à être l'homme. Aidez l'État à être l'État, pourquoi ? Parce que devant l'immensité des défis qui sont devant lui, vous avez quelque chose à dire. Et le président Krier le sait bien, par exemple sur la fraternité, on a eu l'occasion d'en échanger souvent, nous nous nourrissons de l'intelligence des religions et singulièrement de l'intelligence exigeante et à la recherche de vérité des familles protestantes. Et merci de nous interpeller, donnez-nous des idées, aidez nos dirigeants à être plus intelligents et avoir plus de vision. Je ne serai pas plus long, je vais terminer pour ne pas monopoliser la parole, mais pour vous dire que dans cette ambiance parfois très morose où moi je vois des jeunes qui tiennent des discours vraiment d'une grande tristesse, vraiment le monde a besoin de croyants. Et récemment je relisais l'histoire de cette figure de pasteur baptiste, John Harper, qui sur le Titanic, alors ça vous dire oh là là, mais qui sur le Titanic, alors que le monde était dans un brouhaha immense, disait tenez bon. Et il est allé jusqu'à offrir sa vie, offrir son gilet de sauvetage, offrir sa place dans les canots de sauvetage, mais parce qu'il a témoigné dans cette catastrophe de la force et de l'enracinement de la foi chrétienne. Je prends cette image un peu radicale, mais pour dire que c'est ça, je pense, que l'État attend de vous. Cette lumière pour aider l'État à être l'État et l'homme à être l'homme. Merci beaucoup.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus et vous venez d'écouter Vincent Ploquin qui répondait à la question « Qu'est-ce que l'État attend du protestantisme ?» Vincent Ploquin est directeur adjoint de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Il était l'un des intervenants de la rencontre des acteurs fédératifs qui a eu lieu à Sète les 25 et 26 janvier dernier. Nous aurons l'occasion de vous présenter encore d'autres interventions de cette rencontre un autre moment sur Radio Alliance Plus. Mais pour l'heure, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à bientôt sur Radio Alliance Plus.